cette surveillance mutuelle, elle peut inciter les pays à respecter les engagements qu'ils ont signés.
Alors là, vous êtes en train de me sortir des masques hyper réalistes.
Une guerre dans 10 ans ou dans 15 ans, nous devons être prêts.
Bonjour, est-ce que les pays font bien ce qu'ils disent pour le climat? Ça se vérifie grâce à l'espionnage, on appelle ça le renseignement vert. Et le secteur des matières premières, qu'est-ce qu'il fait lui? Quels efforts? On a posé la question dans leur grande réunion annuelle organisée à Lausanne. La reconnaissance faciale s'immisce un peu partout pour ouvrir des portes, embarquer dans des avions, payer sur internet, mais elle n'est plus infaillible du tout. Visite d'un laboratoire qui teste tous les moyens de la tromper.
Tout un monde, Éric Guévard-Affray.
Le GIEC a publié cette semaine son guide de survie pour l'humanité. 9 ans de travaux, une compilation de toutes les connaissances scientifiques actuelles sur le changement climatique. Cette synthèse n'aura pas d'équivalent dans la décennie en cours. Elle va servir de base factuelle aux négociations politiques et économiques de ces prochaines années, à commencer par la COP28 en décembre à Dubaï. Dans ce domaine, comme dans d'autres, les États ont très envie de savoir ce que font ou ce que ne font pas les autres. C'est là qu'intervient ce qu'on pourrait appeler le renseignement vert. Bonjour Blandine Lévy.
Bonjour.
Donc le renseignement vert, ce ne sont pas des espions à vélo, mais les agences de renseignement qui commencent à prendre en compte et à regarder de près les données liées au climat et à l'écologie.
Oui, et le MI6, le service de renseignement extérieur britannique, a été le premier à communiquer à ce sujet, c'était l'année dernière.
You know, people sign up to commitments on climate change and it's perhaps our job to make sure that when people sign up to them, that actually what they're really doing reflects the you know, what they've signed up to.
Les dirigeants signent des accords sur le changement climatique et c'est notre travail de s'assurer que leurs actions correspondent vraiment à leurs engagements. Ainsi s'exprimait le chef du MI6, Richard Moore, sur Times Radio. Il assurait également que la Grande-Bretagne avait un rôle à jouer dans la gestion du point le plus important de politique internationale de ces prochaines années, à savoir la lutte contre le changement climatique. Il faut à la fois faire confiance, mais aussi vérifier, selon les mots du directeur des services d'espionnage. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment les services secrets de Sa Majesté traquent les mensonges et les immobilismes en matière de politique climatique? Henri Van Zoust est analyste au laboratoire d'idées Rand Europe, spécialiste de défense et de sécurité.
Pour le plus part, il s'agit des images satellites, donc les coûts de lancer des satellites en orbite a réduit beaucoup dans les années passées, donc le coût d'obtenir ces images a réduit aussi. Et on peut utiliser différents senseurs, différentes images infrarouges aussi sur les satellites pour voir s'il y a des fuites de carbone, des fuites de méthane qu'on ne peut pas voir autrement.
Des satellites associés à l'intelligence artificielle, de quoi observer depuis l'espace les sources de pollution, comme les décharges illégales de plastique par exemple. Le projet s'appelle Global Plastic Watch. Testé en Indonésie, il a permis d'identifier 2 fois plus de décharges que celles qui sont officiellement recensées, selon les éclaireurs médias digitales édités par Canal+. Grâce aux satellites de l'agence spatiale européenne associée à l'entreprise Karios, on peut aussi cartographier les fuites de méthane dans le monde et repérer donc les lieux qui émettent des quantités anormales. Normalement élevé de méthane.
Et à part les satellites, quelles sont les méthodes qui permettent aux services de renseignement de collecter des données sur l'écologie, sur le climat?
Eh bien, il y a les bonnes vieilles méthodes d'infiltration, comme le raconte l'historien Bruno Fulini, auteur de l'Atlas secret du renseignement édité chez Grund en collaboration avec la série Le Bureau des légendes.
Il y a les méthodes plus intrusives, que ce soit avec du renseignement humain, donc en ayant des sources que vous manipulez, des gens qui travaillent sur des sites un petit peu sensibles. Au fond, si vous vous intéressez à ce que deviennent les déchets nucléaires en Chine, en Russie, bon, bah, ça peut être intéressant d'avoir des contacts avec des gens qui en sont chargés, qui les traitent, éventuellement, qui en tombent malades et qui peuvent avoir un certain ressentiment et avoir envie d'en parler malgré le danger.
Et puis, il y a aussi beaucoup de sources accessibles en open source, des possibilités d'obtenir du renseignement en croisant des données liées au climat avec des travaux sur la défense et la sécurité. Julia Tass est responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Elle travaille à l'Observatoire Défense et Climat, un projet de recherche financé par le ministère des Armées. Pas de renseignement, dit-elle, mais elle travaille en source ouverte. La question climatique est primordiale aujourd'hui pour les États et leur défense.
Les scénarios de groupes comme celui du GIEC sont liés à des certitudes et des incertitudes et ça permet de dessiner différents mondes possibles, différentes évolutions possibles et que sur la base de ces scénarios, on peut très bien d'une part adapter ses infrastructures Donc, mettre en place des grandes politiques d'adaptation, des infrastructures, des pratiques, des entraînements, des missions, etc. Mais également essayer d'identifier des zones dans lesquelles les conflits ou des tensions actuelles peuvent être exacerbées par les conséquences du changement climatique, comme la désertification.
Les services de renseignement sont par nature taiseux. On ne sait d'ailleurs pas si la France a un programme, elle n'a pas communiqué là-dessus, mais c'est fort probable qu'elle s'intéresse aux renseignements verts. En tout cas, le fait que Londres communique est significatif. Julia Tass.
Ce qui est révélateur dans le fait que le MI6 rende publique cette information, c'est qu'elle permet aussi de faire passer le message d'une part que le climat est un élément structurant de leur stratégie en termes d'affaires étrangères, et puis aussi que cela incite les autres pays à le faire également et à respecter les engagements, puisque une partie des informations qui ont été diffusées, c'est que ces services de renseignement travailleraient notamment sur les politiques publiques mises en place pour répondre aux ambitions climatiques, pour essayer de déterminer, d'évaluer l'alignement entre les politiques publiques mises en place par les pays tiers et leurs engagements au niveau des grandes conventions internationales.
Et ça peut fonctionner ?
Oui, estime Bruno Fulini.
Quand un État a pris des engagements, il est assez normal qu'il regarde si les autres signataires respectent les mêmes engagements. Et au fond, cette surveillance mutuelle, elle peut inciter les pays à respecter dans une certaine mesure les engagements qu'ils ont signés. Donc ça n'est pas forcément inutile pour la transformation de l'économie, pour le renoncement à certains produits très polluants ou à certaines énergies. Vous respectez d'autant plus facilement des engagements que vous savez qu'on vous attend au prochain rendez-vous et qu'on aura des informations sur votre action réelle.
Nuance tout de même, Bruno Fulini estime aussi que ce type de renseignement vert peut être une façon un peu détournée de pratiquer un espionnage industriel. Le géopolitologue François Gémen, lui, émet des doutes sur l'efficacité de cette pression de l'espionnage. Le chercheur craint un effet contre-productif, des menaces, une surveillance qui viendrait pourrir l'ambiance au niveau international, disait-il dans le quotidien Libération. Pour le moment, les États ont tendance à ne pas respecter leurs engagements climatiques. Il faudra donc certainement passer par des procédures de vérification avec potentiellement des sanctions, mais pas sûr que ces logiques d'espionnage règlent vraiment les choses, selon François Gémen. Les pays mis en cause, comme la Chine par exemple, risquent de se défendre et le chercheur craint des logiques d'escalade.
Merci Blandine Lévite. Et à propos de transition énergétique, le GIEC nous rappelle qu'elle est indispensable pour circonscrire les dangers du changement climatique. Mais au-delà du discours, quelles sont les actions concrètes? Parce qu'il est là, le nerf de la guerre. Alors imaginez un endroit dans lequel les grands acteurs mondiaux du négoce d'énergie et de matières premières se retrouveraient. On pourrait les entendre sur ce sujet, leur poser des questions sur la façon dont ils voient leurs responsabilités. Eh bien, cet endroit existe, on y est allé. C'est un grand hôtel de Lausanne dans lequel se tient cette semaine une conférence annuelle organisée par le Financial Times. Bonjour Patrick Chaboudet.
Bonjour Eric.
Et la transition, donc, vous en avez parlé avec Marco Dunant.
Oui, le fondateur et directeur de Mercuria, grande compagnie de négoce basée à Genève et qui a pris l'engagement de faire la moitié de tous ses investissements dans la transition énergétique d'ici 2025. Un objectif déjà atteint avec cette semaine cette annonce également.
On a décidé d'investir 500 millions de dollars dans tout ce qui est capture de carbone par la nature. Donc on va protéger des forêts, on va planter des arbres dans la mesure du possible dans à peu près 20 pays dans le monde. C'est un premier pas qu'on fait dans ce qui sera absolument nécessaire, c'est d'avoir des possibilités au niveau de la planète de capturer du carbone, parce qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à atteindre les objectifs qu'on a en tant que planète entre 2030 et 2050. Donc on a décidé de montrer l'exemple et puis faire ce premier investissement.
Alors 2022 a été une année record pour les compagnies pétrolières et gazières, c'est pas vraiment une incitation à changer de modèle.
Oui, juste un chiffre, 161 milliards de dollars de bénéfices pour l'Aramco, la compagnie saoudienne, c'est sans précédent dans l'histoire. Mais cette manne pourrait être une opportunité, estime Marco Dunant. Pour lui, il ne faut pas exclure ces compagnies des négociations de la COP, elles ont des atouts à faire valoir dans la transition énergétique.
Je pense qu'ils peuvent le faire relativement bien, non seulement parce qu'ils ont de l'argent, mais aussi parce qu'ils ont certaines capacités logistiques et autres. Et si on prend l'année passée les profits créés par les producteurs de pétrole, que ce soit des pays ou des entreprises privées, on arrive collectivement à plus qu'un trilliard de dollars. À mon avis, une partie de cet argent est absolument nécessaire à la transition, mais il faut absolument les rassembler pour qu'ils utilisent une partie de cet argent. Et je pense qu'on va voir ça dans le prochain COP qui se passe dans les Émirats, où ces sociétés ont été réinvitées, on va dire, à discuter avec les différents participants, les NGO et autres. Ces profits peuvent être utilisés à bon escient. Donc c'est beaucoup mieux, à mon avis, d'intégrer ces personnes dans la discussion que de les rendre responsables de tous les maux. Parce que c'est comme ça qu'on obtiendra les fonds nécessaires dont le monde a absolument besoin pour accélérer cette transition énergétique.
Et puis pour assurer cette transition, il faut également des matières premières, lithium, cobalt, cuivre, nécessaires dans les batteries électriques par exemple, et puis également ce qu'on appelle les terres rares utilisées dans la haute technologie. Et là, les stocks sont bas et il n'y a pas suffisamment d'investissement.
Les incertitudes sont tellement élevées que finalement, il y a peu d'appétit pour investir. Donc si on prend les différents métaux qui sont importants pour la transition, les Chinois, eux, ont une vue à beaucoup plus long terme. Donc, ils sont rentrés dans pas mal de pays. Ils ont acheté les concessions et autres. Et en fait, ils réfléchissent à long terme. Donc, ils auront probablement l'approvisionnement qu'ils ont besoin. C'est vrai que l'Europe et les États-Unis sont un peu en retard. Dans la mesure où il n'y a pas énormément de sociétés qui sont prêtes à investir des gros moyens. Donc, ils préfèrent regarder les choses plutôt à court terme qu'à long terme.
Donc au fond, là, les Chinois ont une vision d'avenir que n'ont pas forcément les Européens ou les Américains.
Bien sûr. Du reste, je pense que les Américains sont un petit peu nerveux par rapport à la situation parce qu'il y a certains des métaux où, en fait, les Chinois, ils ont 80% de la capacité de raffinage de ces produits. Et donc, on pourrait imaginer qu'à long terme, ça pourrait créer un problème d'approvisionnement pour le reste du monde.
Et puis l'autre grosse, grande actualité du moment, évidemment, Patrick, c'est Crédit Suisse. Qu'est-ce qu'il en pense ?
Eh bien, il n'est pas spécialement inquiet, ni pour la place financière suisse, ni pour l'image du pays.
Quand les actionnaires perdent confiance et que tous ceux qui ont des dépôts dans ces banques décident de les retirer, il n'y a aucune banque dans le monde qui peut se permettre d'avoir des retraits massifs. À mon avis, ce n'était pas tellement une crédibilité de la Suisse, c'était plutôt une crédibilité du management de cette banque. Et quand, on ne gère pas bien une société, on prend le risque que ça parte en fumée.
Donc pour vous, à titre personnel, de voir cette marque importante disparaître, au fond, c'est pas si important?
Non, pour moi, ça a relativement peu d'importance. Alors, en tant que Suisse, peut-être que je devrais me sentir plus concerné. Mais leurs parts de marché vont être prises en partie par l'UBS et par d'autres. On va dire qu'ils ont, si j'ose dire, ce qu'ils méritent. C'est-à-dire que si on ne gère pas bien une société, on perd le droit de continuer à gérer une banque. C'est comme ça.
Et voilà donc pour le constat de Marco Dunant, le directeur de Mercuria.
Et qu'elle mérite d'être claire. Merci beaucoup, Patrick Chaboudet.
Tout un monde.
Paiement sur Internet, porte d'entrée, passage de douane, vidéosurveillance. La reconnaissance faciale s'est immiscée dans nos vies petit à petit. Elle nous authentifie, nous identifie. Mais est-ce que cette technologie est sûre? Est-ce qu'elle peut se tromper? Et surtout, est-ce qu'on peut la tromper, déjouer son œil expert? Pascal Vasmer, vous êtes allé voir des gens qui testent justement tout ça, des white hats, des hackers éthiques.
Oui, c'est ça. Et on a l'impression d'être dans un véritable film d'espionnage. Comme dans Mission Impossible, les chercheurs changent de visage carrément, changent d'identité. Leur mission est simple, tromper les systèmes de reconnaissance faciale, passer au travers des mailles du filet. Je vous emmène dans une petite pièce sécurisée du sous-sol de l'IDIAP, un institut de recherche affilié à l'EPFL et basé à Martigny en Valais. C'est le professeur Sébastien Marcel qui nous accueille. Il dirige le groupe de recherche sur la biométrie, la sécurité et la confidentialité. On ouvre une porte et sur les étagères, dans les tiroirs, des dizaines de masques. Alors là, vous êtes en train de me sortir des masques réalistes, même oui. Hyper réalistes. Pourquoi vous avez ça dans votre sous-sol? Pourquoi? Ah, c'est un double de vous là.
Tout à fait, bien vu. Vous êtes très fort en reconnaissance faciale. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé à travailler sur un tout nouveau sujet de recherche qui était de voir si les systèmes de reconnaissance biométrique, comme la reconnaissance de visage ou de la voix, si c'était possible de les casser en fait, de les tromper. Et on a essayé de voir quelles étaient les méthodes les plus simples pour tromper les systèmes de reconnaissance de visage plus particulièrement. Et on a commencé à s'intéresser à des attaques très basiques, genre des feuilles de papier qu'on présentait devant une caméra. Et on s'est aperçu que ça marchait très bien. Et donc par extension, on a commencé à travailler sur des attaques de plus en plus complexes. Donc on est parti de la feuille de papier, les écrans, et ensuite on est passé au masque 3D. Ce que vous avez ici, c'est le résultat d'un peu plus de 10 ans de travail où on a récolté, construit, fait construire des masques en 3 dimensions dans différents types de matériaux. On a de la résine, des masques imprimés par des services 3D. On a des masques en silicone. Donc des masques silicone, on a des masques en silicone de personnes inconnues, comme ces bustes que vous voyez ici. qui coûtent environ 800 dollars et qui sont accessibles au grand public, à l'achat, je veux dire, sur des sites spécialisés aux États-Unis. Et vous avez des masques un peu plus conventionnels, qui sont des masques custom, comme cela. On peut décoller le masque, on peut le mettre, il est autocollant en fait. Et donc on peut aussi changer les orbites oculaires, donc je vais mettre des faux yeux, des faux iris, par exemple, si on fait étudier l'iris. Donc ces masques en silicone ont la propriété, en fait, très intéressante du point de vue de l'attaqueur, d'être très flexible, donc c'est-à-dire ça bouge avec vous quand vous parlez, ça aussi absorbe la chaleur très rapidement, donc ce qui fait que ça peut tromper l'imagerie thermique. Donc voilà, ça c'était très intéressant d'un point de vue attaque.
Et les entreprises viennent du monde entier pour faire tester leur matériel, car chacun a sa propre recette secrète pour développer sa reconnaissance faciale.
Donc les entreprises viennent, elles nous laissent leurs produits, c'est pour ça que la salle est sécurisée ici. On les met au coffre quand il y a besoin, et puis on prend leur système d'empreinte digitale, leur système de reconnaissance de visage ou de la parole, ce qui a besoin d'être testé. Et on met en place un protocole d'évaluation. Soit on utilise nos masques pour la reconnaissance de visage pour tester la robustesse. Et ensuite, à la fin de ça, on établit un rapport qui servira d'évaluation pour l'entreprise ou qui servira à l'agence de certification qui certifie les produits biométriques.
Car c'est ça, hein, le travail de ce groupe de recherche, avoir une reconnaissance faciale la plus performante possible pour détecter un visage tout en étant robuste pour résister aux attaques. Et cette somme de connaissances, ils l'utilisent aussi pour développer leur propre système comme un capteur biométrique d'un nouveau type. Fini les empreintes digitales, l'appareil s'intéresse désormais aux veines de la main.
L'idée ici, c'est de faire de la capture biométrique hygiénique, donc sans contact. Vous avez le système d'illumination, ici vous avez plusieurs caméras, ici vous avez un faisceau qui est pour aider à la reconstruction 3D. Donc on fait une reconstruction 3D de la main, et une fois qu'on a trouvé les doigts et la paume, on arrive à extraire la structure de la veine par imagerie infrarouge simplement, et l'utiliser simplement pour faire l'authentification.
On pourrait trouver prochainement cette technologie dans les hôpitaux par exemple. La machine authentifie les soignants, même au travers de gants chirurgicaux.
Et l'autre inquiétude, Pascal, par rapport aux technologies de reconnaissance, c'est leur vulnérabilité aux deepfakes, donc aux falsifications très élaborées.
Ouais, là on utilise l'intelligence artificielle pour tromper les gens ou les machines. Imaginez, je me fais passer pour vous dans une visioconférence, je mets un filtre numérique sur mon visage et je parle avec un clone de votre voix, et tout ça en temps réel. C'est pas à la portée du premier venu, mais c'est désormais possible en recourant notamment à des programmes qu'on trouve sur le dark web. Toutes ces attaques ont un point commun, elles se déroulent au moment où on utilise le système. Mais il existe un autre type d'attaque qui se déroule bien avant, c'est l'attaque de type morphing. Concrètement, Eric, on pourrait partager le même passeport en fusionnant, oui, nos deux photos et en faisant donc une sorte de morph. Vous pourriez passer les frontières avec une carte d'identité à mon nom.
Il y a certains endroits dans le monde où, pour obtenir le document d'identité, j'amène moi-même ma photo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je manipule cette image-là, avant que je l'imprime et que je la donne? Donc si je manipule cette image et que je fais un morph, donc, c'est-à-dire qu'un morph, c'est je prends deux visages, que je les mélange ensemble, quelque part. Donc l'image morphée, comme vous pouvez le voir ici, va contenir les traits de deux personnes différentes. Dans les faits, ça veut donc dire que si j'arrive à injecter un morph lors de la fabrication d'un document d'identité, je pourrais me retrouver avec un document d'identité totalement valable, fait par une autorité, avec à l'intérieur un morph, qui permet à deux personnes de voyager sur ce document d'identité, parce que si passe une e-gate, le système de reconnaissance de visage a des chances de reconnaître ces deux personnes contre le visage qui est dans le même passeport.
Complètement invisible.
Alors, pas totalement invisible, puisque maintenant on sait, donc il y a des travaux qui permettent de détecter les morphes. Les solutions existent pour détecter la pièce d'identité qu'on amène, si c'est un morph ou pas. C'est juste que maintenant, il faut que ça soit déployé par les agences qui considèrent qu'elles ont ce genre de faille.
Bah alors, non seulement rien ne prouve que c'est vous, là, en face de moi, dans le studio, Pascal, et je ne peux même pas vous demander votre passeport pour me le prouver. Ça fait un peu froid dans le dos, quand même, toutes ces démonstrations. Qu'est-ce qu'on peut retirer?
Bah, c'est avant tout une prise de conscience. Aujourd'hui, nous avons besoin d'outils fiables pour distinguer le vrai du faux dans le monde numérique. On entre dans l'ère des identités numériques où la différence entre la réalité et le virtuel devient un peu plus floue. Sébastien Marcel.
On a besoin maintenant d'outils automatiques de modération, ou qui aideront la modération humaine, qui analyseront le contenu vidéo et audio pour s'assurer, ou en tout cas dire à l'utilisateur « Ah, là, il y a une suspicion que c'est vrai, c'est faux ». Et ça a tout un tas d'applications. Hein. Il y a ce sujet aussi de pouvoir garantir l'âge des personnes sur Internet, d'accord, pour tout un tas d'applications. C'est également la même chose pour des conversations. Si vous avez une conversation vidéo avec une personne qui prétend avoir un certain âge, mais qu'elle n'a pas en réalité cet âge-là, parce qu'elle a utilisé un filtre, Comment vous savez ?
Les solutions aujourd'hui sont techniques. Il faut des détecteurs performants pour repérer les productions de l'intelligence artificielle, mais aussi politiques. On attend désormais le nouveau règlement européen sur l'intelligence artificielle. Il traitera notamment les IA selon les risques qu'elles représentent, mais pas d'entrée en vigueur avant l'année prochaine, voire 2025.
Merci beaucoup Pascal Wassmer, si c'est bien.
Oh, not that old chestnut.
L'histoire n'est pas quelque chose qui est écrit d'avance. Tout dépend de chaque décision qu'on va prendre.
And remember, no matter what happens, the sun will rise in the morning.
Tout un monde.
La France se prépare à doubler son budget militaire pour acheter plus de munitions et plus d'armements. Elle veut se préparer à un conflit de haute intensité, une guerre dans laquelle les armées étatiques et de puissances similaires s'affrontent, comme en Ukraine actuellement. C'est aussi pour cette raison que l'armée française mène depuis le mois de février un exercice inédit, une simulation d'entrée en guerre avec 7000 militaires et 7 armées occidentales. Ça se passe dans le sud de la France, ça s'appelle Orion. Ariane Lavrieux a pu y participer.
Dans un vaste champ, à côté de la petite ville de Castres, 700 parachutistes sont largués en l'espace de 2 heures.
Là, ils sont à 300 mètres d'altitude. Donc après aussi, on doit s'orienter par rapport au vent. Là, le parachutiste, il plie les jambes, il resserre et hop là, il fait un roulé-boulé en fait quand il saute.
Dans le scénario de l'entraînement concocté par l'armée française, les soldats doivent imaginer qu'ils ne sont pas en France, mais dans un pays étranger, envahi par une grande puissance, et dans lequel ils sont envoyés pour combattre et chasser cet envahisseur.
Il s'occupe, c'est bon. Ok, on le dégage. Michel, tu me renseignes au plus loin, si t'as visuel sur quelque chose, tu me dis. Good, allez, en ligne.
Les premiers à tirer sont des camarades qui jouent des ennemis cagoulés, déguisés en miliciens. Les balles sont à blanc, les blessés sont simulés, mais comme sur le vrai champ de bataille, ils ne sont pas la priorité du capitaine Thibault.
On considère qu'à partir du moment où on est 50% en zone de regroupement, donc 150 paras sur les 300 largués, on est en mesure de continuer la mission. C'est quelque chose qu'on doit tous savoir connaître, de manière à ce que... En fait, la mission passe d'abord et après on s'occupe évidemment de nos camarades.
Au même moment, 150 km plus loin, les troupes de la Marine nationale débarquent sur les plages de Sète. En tout, c'est 7000 soldats qui sont envoyés à l'assaut sur 2 fronts imaginaires créés pour l'exercice Orion. Une coopération inédite entre les 3 armées que supervise le général Frédéric Chiffaut.
La particularité, c'est que c'est un entraînement combiné, non seulement amphibie, mais avec les opérations aéroportées, les opérations des forces spéciales, l'infiltration. Et donc ça veut dire du renseignement, ça veut dire des actions cyber pour ne pas être découvert. Ça veut dire, au fur et à mesure, créer la confusion chez l'ennemi pour qu'il ne s'attende pas à l'endroit où on va débarquer, par exemple, dans le scénario, un petit peu comme l'image de Fortitude à la Seconde Guerre mondiale, en faisant croire qu'on allait débarquer dans une autre région.
À bord du navire baptisé Tonnerre, on entend quelques accents étrangers parce que des officiers de l'OTAN et de 7 pays du continent européen participent à l'exercice, des Britanniques, Italiens, Allemands et Espagnols, comme le capitaine Manuel de Lasso.
Je suis un officier allié et je suis le seul Espagnol gentil parce que toutes les autres forces espagnoles jouent dans le camp ennemi. Là, on est en train de discuter des manœuvres à venir pour soutenir les forces terrestres du débarquement. Là, on voit un sous-marin qui était probablement en train de se ravitailler au port de Toulon. Et il va sortir pour couvrir ses positions. Et probablement que son intention est d'attaquer nos plus gros navires de guerre.
Dans la population, ce défilé soudain de blindés et bataillons de soldats suscite autant la curiosité que l'inquiétude.
Nous avons vu des militaires sur la route. Ça fait un petit peu peur avec tout ce qu'on entend entre l'Ukraine, la Russie. Et d'un seul coup, on les voit eux. Est-ce qu'on n'est pas parti pour faire une guerre? Je ne sais pas.
Malgré les apparences, la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, Patricia Mirallès, assure que non, l'objectif n'est pas de préparer l'opinion française à une guerre. Enfin, pas dans l'immédiat.
Il ne faut pas qu'ils soient inquiets, au contraire. Nous avons des capacités. Nous sommes la première armée d'Europe. Et déjà depuis 2021, avant même que la guerre soit déclarée, les armées avaient prévu cet exercice Orion. Si toutefois il devait avoir une guerre dans 10 ans ou dans 15 ans, nous devons être prêts et donc nous nous préparons.
Dans cet exercice, les citoyens, comme les parlementaires, n'ont qu'un rôle d'observateur extérieur. Comme pour toutes les opérations militaires françaises, c'est l'exécutif qui décide. Après l'exercice du débarquement et 3 semaines de faux combats, les états-majors ont rendez-vous à Paris pour une réunion avec le gouvernement à huis clos. Ariane Lavrieux pour RTS Info 7.
C'était Tout un monde, le podcast RTS qui ne va pas changer le monde, mais va vous aider à le comprendre. Abonnez-vous pour être averti quand le prochain épisode sera disponible. C'est tous les jours, du lundi au vendredi.
Vous ne vous intéressez peut-être pas à la géopolitique. Vous avez tort.
Elle s'intéresse de plus en plus à vous.